la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM, c'est la dernière chronique de cette saison 2022-2023. Alors il est temps de vous parler de tous les livres que j'ai lus ces dernières semaines et dont je n'ai pas encore eu le temps de vous parler. Ça va faire une chronique peut-être un peu dodue, avec pas mal de bandes dessinées. Je ne sais pas pourquoi, j'ai manqué de temps pour enregistrer des chroniques et donc pour vous présenter un certain nombre d'ouvrages sortis récemment et qui m'ont largement plu. On commence avec une revue, la dernière chronique en date c'était sur la revue Relief, et bien une autre revue dont je parle assez régulièrement ici, c'est la revue 303, revue culturelle, art, recherche, création de la région des Pays de la Loire, qui consacre son numéro 176 au cinéma d'animation, ça avait déjà été le cas il y a quelques années, cinéma d'animation qui est donc décrypté dans ce numéro de la revue, un numéro on va dire régulier, ça n'est pas un des grands hors-série, qui compte donc quelques 95 pages, tout en couleurs, avec des textes, des photos et surtout du dessin, puisqu'il s'agit de cinéma d'animation, qui coûte 15 euros. Alors, de cinéma d'animation, il est question évidemment avec une entrée liée à la région des Pays de la Loire. C'est Xavier Kawatopor qui signe l'éditorial et qui a œuvré à mettre en place ce numéro autour du cinéma d'animation, dans lequel on retrouve à la fois quelques éléments d'archives, comme souvent dans la revue. Par exemple, un travail autour de Benjamin Rabier, qui est un auteur-dessinateur de la fin du 19e, début 20e, qui a beaucoup œuvré pour la jeunesse. On peut citer notamment Gédéon le Canard, qui est l'un de ses personnages les plus célèbres. Et il a beaucoup travaillé sur la représentation animale. On retrouve donc un certain nombre de ses dessins pour des projets de dessins animés qu'il avait eus et qui ont, pour certains, vu le jour. On trouve également dans la revue un entretien avec Marc Caro, réalisé par Cécile Neusser, dans le cabinet de curiosité de Marc Caro. Et bien oui, parce que le réalisateur Marc Caro, qui est aussi dessinateur, a fait des films d'animation, notamment en compagnie de Jean-Pierre Jeunet, le film Le Manège, mais il y a eu d'autres projets. Et puis, il y a, et peut-être surtout, la personne qui fait la couverture de ce numéro de 303, il s'agit de la réalisatrice Charlie Bellin. Et son film d'animation, Drôle d'oiseau, est ici décrypté par Amélie Galli avec ses très beaux dessins et paysages qui se situent entre Saumur et l'île de Souzet. Une magnifique plongée dans des dessins d'une très grande subtilité. Enfin, pour clore ce dossier sur l'animation, dans la revue 303, il y a la carte blanche à Nathaniel Arlimi avec de très beaux grands dessins qui représentent souvent des personnages perdus dans de grands décors. Pas exactement façon Sampé, mais on pourrait s'en rapprocher. C'est un magnifique travail là aussi. Il y a donc beaucoup de belles choses à se mettre sous les yeux dans ce numéro de la revue 303 autour du cinéma d'animation. Lors de la précédente chronique, je parlais de Clément Vullier qui illustre un livre à sortir, une réédition de l'Histoire des montagnes de Élisée Reclus. Eh bien, Clément Vullier, je ne suis pas sûr de vous avoir présenté Le Terre rare. Terre rare, c'est un très beau livre publié chez les éditions 2024, comme à leur habitude, un grand livre d'eau toilée qui fait confiance complètement dans le dessin. Un livre qui coûte 29 euros, puisqu'il y a quelques 150 pages de dessins. On pourrait supposer à la mine de plomb, je ne sais pas quelle technique utilise exactement Clément Vullier, mais c'est presque comme de la gravure. Il y a des points, des formes qui sont toutes en noir-blanc avec des niveaux de gris assez incroyables et l'impression est très très puissante. Et Terre rare raconte, par le dessin seulement et sans aucun texte, eh bien, les éléments, les planètes, les étoiles. Il y a comme une lune qui ouvre les premières pages. C'est tout de même mis en séquence dans des cases, plus ou moins horizontales ou verticales, qui donnent un rythme de bande dessinée à l'ensemble. Et il y a comme des explosions, comme une création du monde, un Big Bang peut-être, des fractures, des reliefs, des montagnes. On ne sait pas bien où on est. Est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on est après, avant un effondrement, une explosion? Ou peut-être à l'origine de tout? Et ce livre, on ne se lasse pas de l'ouvrir et de le réouvrir avec parfois des doubles pages complètement étonnantes et réellement explosives dans le sens premier du terme. C'est un livre vraiment, vraiment saisissant et hypnotique à beaucoup d'égards, celui de Clément Villiers qui s'appelle Terre rare aux éditions 2024. Des mêmes éditions 2024, mais on en reparlera en temps voulu. Je viens de lire en toute avant-première un livre de Jérémy Perraudeau qui s'appelle Le visage de Paville et qui sortira en septembre. Et c'est comme à l'habitude avec Jérémy Perraudeau, un livre, on pourrait dire de science-fiction, en tout cas d'anticipation ou de monde parallèle, mais qui chaque fois touche très juste et nous dit énormément de notre vécu. Ici, un homme crache sa navette dans un endroit de la planète qu'il ne connaissait pas. Quelle planète ? Peut-être la Terre, on ne sait pas bien. Et il se retrouve presque comme retenu contre son gré dans cet endroit avec un peuple qui vit là de manière, on va dire, presque primitive, en tout cas à l'ancienne, avec des croyances et avec tout un tas de mystères qu'il va essayer de comprendre pendant les quelques temps que va durer sa résidence au sein de ce peuple. Résumé comme ça semble un peu simpliste. En fait, il y a énormément de subtilité dans les rapports humains, dans le rapport au mystique, dans le rapport aux croyances, et puis dans les masques qui tombent, peut-être. Les personnes ne sont pas forcément celles que l'on croit. Et c'est toute une quête et toute une sorte d'errance statique qui va être à l'œuvre pendant tout le récit de Jérémy Perraudeau, Le visage de Paville. Paville étant ce personnage qui vient de l'Empire et qui se retrouve donc en observateur, mais un observateur relativement actif. Je vous en reparlerai très certainement à la rentrée et j'essaierai de faire un entretien avec Jérémy Perraudeau parce que ça fait quelques temps qu'on se croise et que son travail m'intéresse profondément. Ce livre, il vous coûtera 29€ aux éditions 2024 quand il sortira donc en septembre. Il est assez copieux puisqu'il fait 160 pages, tout en couleurs. Les éditions Misma ont publié un tout petit livre de Alexandre Guéraudy, déjà repéré aux éditions Flublub. Une journée avec moi, il s'agit d'un dessin par page et probablement le genre de chose qui a pu être publié sur un réseau social, un dessin par page avec une représentation de lui-même, Alexandre Guéraudy. Bonjour, là c'est moi. Dessin relativement schématique avec des couleurs très vives. Et ça commence avec quelqu'un qui gratte à la porte alors que le personnage est au lit. Il est 6h59, là c'est moi qui dors. 7h, là c'est moi qui n'entends pas le réveil. 12h45, là c'est moi qui éteins le réveil. 13h33, là c'est moi qui sors du lit. 14h03, là c'est moi qui fume une cigarette avec le café du matin. Et on va donc passer comme ça une journée avec Alexandre Guéraudy qui décrit là où il est et ce qu'il fait avec une malice et une forme d'absurdité qui est assez contagieuse. En tout cas, on enchaîne les pages, on a envie de voir où tout cela nous mène et on se doute un peu de la boucle possible. Une journée avec moi de Alexandre Guéraudy, un tout petit livre qui coûte 12€ aux éditions Misma dans un joli format carré cartonné. Un format à l'italienne cette fois, un grand format à l'italienne de Giacomo Nanni, Un jour le soir aux éditions nantaises, ici même. Giacomo Nanni, auteur italien qui vit à Paris et qui travaille depuis quelques années avec les éditions ici même et a des livres qui ont une technique tout à fait étonnante de pointillisme, on pourrait dire, des pointes, des sortes de pixels dans l'image qu'on imaginerait réaliser à la trame ou à l'ordinateur et qui sont en fait entièrement réalisés à la main par l'auteur. C'est un travail à la fois saisissant de précision et presque effrayant de maniaquerie. Et dans Un jour le soir, c'est une nouveauté dans la manière de narrer les choses par Giacomo Nanni. Après plusieurs livres où les protagonistes et surtout les narrateurs ou narratrices étaient des animaux ou des objets, eh bien là on a un personnage, un humain, un homme qu'on suit dans les rues de Paris. Un homme presque en rupture de ban, en tout cas pas loin du déclassement social puisqu'il a des lourds problèmes d'argent et qu'on sent qu'il est au bord de la rupture, mais un homme qui cherche non seulement à trouver un peu d'argent, mais aussi qui cherchent l'amour, qui observent les femmes, qui fantasment peut-être une rencontre dont on ne sait pas bien si elle a eu lieu complètement. Le récit se découpe dans différentes temporalités. Ça commence par aujourd'hui, puis ça va sur hier, puis avant-hier, et on retrace comme ça le chemin de ce qu'il s'est passé et de là où il en est. C'est un récit qui, comme chaque fois avec Giacomo Nanni, prend des portes de sortie qu'on n'attendait pas et s'ouvre sur des formes poétiques, parfois étonnantes, et puis à d'autres moments, un retour à un pragmatisme et une violence de la société très directe. Très très beau livre donc en couleur et en grand format à l'italienne qui fait 95 pages tout en couleur donc et qui vous coûtera 24 euros. J'aurais voulu voir Godard, dit Philippe Dupuis, c'est sa toute dernière bande dessinée publiée chez Futuropolis avec une couverture très attirante et qui reprend des codes et des constructions à la Godard. Puisqu'il est écrit très exactement « J'aurais voulu voir Godard est une bande dessinée » écrite et dessinée par Philippe Dupuis sur sa rencontre avec JLG. Il y est question de cinéma, de bande dessinée, d'art, de langage et d'image. C'est un drôle de livre. Qu'est-ce que c'est ? Les dessins ont été faits à la main, sur du vrai papier. L'éditeur est Futuropolis. Tout cela est donc découpé, explosé sur la couverture en couleur. Philippe Dupuis qui travaille beaucoup autour de l'art et de la représentation de l'art et de son rapport à l'art depuis plusieurs années, eh bien, signe là un autre livre qui questionne cette fois son rapport à l'image, toujours, mais par le biais du cinéma et par le biais d'une rencontre voulue, supposée, est-ce qu'elle a été vécue, on ne saura pas, avec Jean-Luc Godard. Et tout l'enjeu est de faire à la fois un hommage, une réflexion, un miroir, un pastiche, pourquoi pas, il y a des manières à la Godard, et avec une confiance donnée au dessin, encore très très forte, et puis quelque chose d'assez jeté, comme dans des carnets, qui sont ici reproduits. On n'est pas exactement dans le fac-similé, mais il y a quelque chose comme des pages juste scannées et à peine nettoyées dans ce livre, et puis des inserts de photos et des propos. Des propos prêtés à Godard, des propos d'une conversation, a-t-elle eu lieu, encore une fois, on ne le sait pas, et peu importe. Mais ces propos sont aussi probablement la digestion que Philippe Dupuis a pu faire de tout le cinéma de Godard et de toutes les réflexions de Godard, et qui lui permettent donc d'aller assez loin dans l'image. Et c'est d'ailleurs Godard qui pousse l'auteur de bande dessinée à avoir confiance en l'image. Il lui fait cette petite pique à un moment, mais pourquoi donc n'avez-vous pas confiance ? Allez-y. Et donc on a des séquences de dessins qui s'enchaînent, des dessins qui sont à la fois figuratifs et d'autres beaucoup moins. Et toutes ces séquences de dessins permettent à Philippe Dupuis, encore une fois, d'aller un peu plus loin dans une forme de libération des carcans de la bande dessinée. C'est un très très beau travail réalisé donc par Philippe Dupuis, « J'aurais voulu voir Godard » pour 22 euros aux éditions Futuropolis, tout en couleur. Je viens d'achever un très beau livre de Delphine Panique, Creuset Voguet aux éditions Cornelius, un recueil de 10 histoires courtes de bande dessinée, avec chaque fois une tonalité chromatique. Il peut y avoir du bleu, du jaune, du vert aussi. Une mise en couleur très juste qui permet de donner un relief au dessin minimal, parfois schématique, mais toujours très juste, de Delphine Panique. Un dessin qui lui permet de dire l'essentiel et qui garde une forme poétique, alors même que le propos peut être, comme ici, assez sombre. Même s'il y a de l'absurdité, de l'humour et toujours une sorte d'amusement, voire de légèreté dans certaines séquences dans ces bandes dessinées de Delphine Panique, il est ici question de société, de politique et de réalité du monde du travail. Les 10 histoires, même si elles ont une forme de fantaisie, vont toutes raconter une réalité du travail, alors même qu'on est dans un univers qui est parfois complètement fantasmagorique. Delphine Panique a réagi à travers ses histoires à la question de la bande dessinée du réel. Après avoir fait un travail de bande dessinée du réel en compagnie d'une journaliste où elle a beaucoup sué pour essayer de représenter quelque chose de tout à fait exact de la réalité, elle s'est posée la question de justement cette représentation. Est-ce qu'il faut qu'elle soit absolument exacte pour dire quelque chose ? Elle trouve donc là une bonne manière de s'amuser avec les codes de la bande dessinée du réel, tout en montrant quelque chose de la réalité du monde du travail, notamment le travail des femmes, exploitées souvent dans des questions de ménage, de cueillette, ou différents endroits où on va les surexploiter, et notamment des femmes mères célibataires. C'est une figure qui revient quasiment à chaque histoire. Une manière donc pour Delphine Panic d'aller plus directement dans le vécu, dans son vécu, pourquoi pas, à travers ces histoires qui ne manquent pas de celles qui sont souvent touchantes, parfois nostalgiques, ou en tout cas émouvantes à bien des égards, mais aussi drôles. Et il y a une très jolie pirouette finale qui permet de rassembler un certain nombre d'éléments trouvés dans les différentes histoires, de se creuser vogué. Un très beau livre de Delphine Panic, encore une fois, aux éditions Cornelius, pour 24,50€ et quelques 100 pages. Enfin, je suis en train de lire un livre de Tita Wapeu, aux éditions Au Vent des Îles, qui s'appelle Pina. C'est donc le seul récit, roman, de cette sélection d'ouvrages pour cette vaste chronique Je lire. Il s'agit d'un roman qui se situe à Tahiti. C'est le deuxième livre de Tita Wapeu. Et il s'agit d'un récit de famille et d'un récit de la réalité du quotidien et de la société et de la politique, pourquoi pas, à Tahiti. Et cette réalité, elle est comme dans beaucoup d'endroits qui ont été colonisés. Beaucoup de misère, de l'alcool, de la violence, à travers notamment la figure du père de Pina, Pina étant la cadette de 9 enfants. Auguste, le père, est un homme étrange et assez violent à plein d'égards, alcoolique aussi, jusqu'au moment où il lui arrive un accident qui va bouleverser un peu les choses, mais fondamentalement pas vraiment changer leur rapport, si ce n'est que Auguste va partir dans quelque chose de beaucoup plus mystique. C'est un livre assez dur et très juste, avec différents niveaux de récit et où on suit plusieurs personnages, même si le titre donne à penser qu'on va principalement être à travers le regard de cette cadette. Un livre qui donne une voix relativement peu entendue par ici, la voix des habitants de Tahiti. Il coûte 19€ aux éditions Au Vent des Îles, donc ce livre pour 370 pages. Et Tita Wapeu est l'invité très prochainement, en novembre prochain, du festival Nature Nomade porté par la Géothèque. Elle sera là plusieurs jours, ce sera l'occasion donc de converser avec elle de ces deux livres, dont ce Pina aux éditions Au Vent des Îles. Il me reste plein de livres pas encore lus, qui ont été achetés, reçus, prêtés, offerts, qui sont donc stockés. Parmi lesquels, un très gros livre aux éditions Atrabile de Yanis Lamatia, naturellement, un livre avec des pages colorées très étonnantes qui semblent rythmer le récit. Je vais m'y plonger cet été, je vous en parle à la rentrée. Bonne lecture.
This book deals with epiphenomenalism, which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
Afro Bell. Cervantes. Okay. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern.
Hello.
Mary Wollstonecraft.
Vindicated.
Jane Austen.
Here I am.
Sir Walter Scott.
Roldu.
Leo Tolstoy.
Yes.
Honoré de Balzac.
Oui.
Edgar Allan Poe. Charlotte Bronte.
Hello.
Emily Bronte. Bronte.
Hello.
Nikolai Gogol.
Best cheese.
Gustave Flaubert.
Oui.
William Makepeace Thackeray.
Call me William Makepeace Thackeray.
Nathaniel Hawthorne.
The letter A.
Herman Melville.
Ahoy there.
Charles Dickens.
London is so beautiful. Come up here.
Anthony Trollope.
Good evening, good evening, good evening.
Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton.
Hello, Mr. James.
D. H. Lawrence.
Never heard of it.
E. M. Forster.
Never heard of it.
Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today.
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je ne me souviens plus.
F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway.
That's probably me, son.
Herman Hesse.
Oh, it's so nice.
Evelyn Waugh. William Faulkner.
You can eat William Faulkner.
Anais Nin. Maddox Ford.
Any color as long as it's black.
Jean-Paul Sartre.
Let's go, no, Mr. Holmes.
Simone de Beauvoir. Albert Camus.
The beach. The beach.
Franz Kafka.
What do you want from me?
Thomas Mann. Graham Greene.
Put me pinky in a bit.
Jack Kerouac.
The car's broken down.
William S. Burroughs.
Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I'm gonna live today.
Kingsley Amis.
Doris Lessing. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding.
Hector Busby.
J.G. Ballard.
Instrument vehicle.
Richard Brautigan.
How do you do?
Milan Kundera.
Don't do interviews.
Ivy Compton Burnett.
Hello.
Paul Theroux.
Gunther Grass.
That was a snail.
Gore Vidal.
Oh, it makes me mad.
John Updike.
Run, 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 run.
Kazuo Ishiguro.
Awesome, chef.
Malcolm Bradbury.
Stroke John Steinbeck, stroke James Andrew.
Ian Banks.
Two oranges.
A.S. Byatt. Martin Ellis. Brett Easton Ellis. Umberto Eco.
I don't understand this either.
Gabriel Garcia Marquez.
Mikasa Dukasa.
Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Names who live forever.